Français, encore un effort si vous voulez être républicain, c'est le titre du formidable discours que le marquis de Sade insère entre deux dialogues dans La philosophie dans le boudoir, un pamphlet plein de panache à l'heure où le terme de républicain est brandi à tout va, au point qu'un certain parti, en effet son parti républicain, ce drôle de mot qu'on cite, qu'on s'approprie, qu'on décline à l'envi pour lui faire dire ce qu'on veut. Alors que dit le divin marquis à la fin du XVIIIe siècle? Qu'il faut, pour être républicain, se libérer du joug de la religion et de l'ancien régime. Ce n'est plus ni aux genoux d'un être imaginaire ni à ceux d'un vil imposteur qu'un républicain doit fléchir. Ses uniques dieux doivent être maintenant le courage et la liberté. Et Sade, de pousser l'idée de liberté jusqu'au plus vil libertinage, jusqu'à faire l'apologie du vol, du meurtre et du viol. Alors on va pas le suivre sur toute la ligne, rassurez-vous. Mais la fin de son discours regorge de remarquables conseils. Si l'on veut être un bon républicain, faisons peu de lois, mais qu'elle soit bonne, qu'elle n'ait pour but que la tranquillité du citoyen, son bonheur et l'éclat de la République. Ranimez votre commerce, redonnez de l'énergie et des débouchés à vos manufactures, faites refleurir vos arts, encouragez l'agriculture, que les autres peuples vous voient heureux et ils courront au bonheur par la même route que vous leur aurez tracée. Ça, c'est stylé.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qu'entend donc mon invité d'aujourd'hui par le terme de républicain dont elle a fait le titre de son troisième roman? Elle est l'un des écrivains les plus étonnants de ces 20 dernières années. Son écriture en oscillation permanente entre essais, récits et romans est de celles qui font mouche dans ce dialogue sans concession sur la vie politique, culturelle et intellectuelle. Elle dit forcément quelque chose de notre époque. Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Ça veut dire quoi républicain pour vous, être républicain?
Être républicain, c'est dans mon livre, c'est une sorte de contre-provocation par rapport à effectivement la confiscation d'un terme générique, d'un mot commun par un parti politique. La République m'intéresse, évidemment, ce sont les institutions qui sont les nôtres. Elle m'intéresse aussi parce qu'elles sont très imprégnées de mœurs d'ancien régime. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout la France. Et la France, pour moi, est davantage qu'une République, a une plus longue histoire que celle de la République. La France a été un grand royaume. Et c'est toute cette histoire que j'ai envie de récapituler dans ce livre.
Vous l'êtes républicaine, vous?
Bien sûr.
Ça se manifeste comment?
Ça se manifeste par mon amour de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité.
Votre livre, c'est un constat, Cécile Guilbert, plutôt pessimiste sur l'état de la République aujourd'hui, une République moribonde, corrompue, inculte. Comment vous l'expliquez, ça?
Je ne crois pas que ça soit vraiment la République, si vous voulez, qui est dans cet état. Je crois que c'est plutôt le pays. Il y a une décomposition politique et sociale, c'est indéniable. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre maintenant. Il y a un effondrement symbolique qui n'est pas dû à la République, dû au manque de vision, au manque de culture, au manque d'envergure peut-être de ses dirigeants, enfin peut-être sans doute. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas la République forcément. Il y a aussi, je pense, une crise de la gouvernance démocratique, comme disent les experts, c'est-à-dire que nous vivons dans des institutions républicaines, mais justement en raison de ces mœurs, de ces faiblesses, des choses qui ont été tolérées depuis très longtemps et qu'on voit ces jours-ci, le gouvernement n'est pas complètement démocratique. Il y a encore des choses à améliorer. Je pense que nos compatriotes le sentent, le disent. Il y a aussi une amnésie historique.
Oui, donc vous aspirez quand même à une nouvelle, un renouveau de la République, à une République qui soit, par exemple, de nouveau une République des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous?
Alors, pardonnez-moi de vous contredire, mais en fait, la République des lettres, c'est un terme qui me semble complètement vidé de sa substance. C'est-à-dire que la République des lettres avait un sens. Elle a eu un sens très longtemps, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Elle a encore un sens aujourd'hui pour certaines personnes, pour un certain clergé intellectuel. Mais moi, là, c'est pas la République des lettres qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Et la littérature, c'est quelque chose qui est l'identité française.
Alors, comment se fait-il, Cécile Guilbert, que ce lien entre politique et littérature se soit étiolé à ce point? Parce que c'est ça que vous dites.
Si vous voulez, il faut dire quelque chose, c'est que quand on parle de littérature et politique, bon, on a toujours à l'esprit le grand duo de Gaulle-Malraux, la diplomatie des lettres, tous ces écrivains qui ont été diplomates, etc. Mais moi, ce que je trouve fondamental, c'est que quand je dis que l'identité française, je dis pas l'identité nationale, parce que si je disais l'identité nationale, ça serait uniquement la nation française, mais l'identité française depuis l'Ancien Régime, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, depuis la chanson de Roland jusqu'à aujourd'hui, ça a été que les écrivains français se sont interrogés sur leur histoire à travers tous les genres, et que la plupart de nos grands écrivains ne sont pas des écrivains professionnels, il faut le dire. Ce sont des mémorialistes, ce sont des épistoliers, ce sont des chroniqueurs, c'est Chateaubriand, c'est Joinville, c'est Saint-Simon, c'est le cardinal de Ré, et aussi des romanciers au XIXe siècle, Balzac, etc. Mais ce lien viscéral entre la langue française et ceux qui l'ont manié avec le plus de génie, pour moi, c'est ça l'identité française, et c'est ce que les hommes politiques oublient, parce qu'ils nous servent toujours du Zola, du Jaurès, mais enfin, si vous voulez, oui, ils n'ont pas la mémoire très longue.
Et oui, est-ce que vous critiquez très fermement dans le livre, c'est aussi, et c'est même d'abord, la formation des élites? Est-ce que je me trompe?
Oui, parce que ce livre, en fait, qui met en scène deux anciens camarades de Sciences Po, dont l'un a réussi l'ENA quand l'autre, la femme en question, a raté l'ENA, c'est sûr qu'il sort d'un certain moule. Je veux pas incriminer forcément ce moule, mais ce qui est un peu...
D'autant que vous en êtes, c'est Gilbert.
Non, je suis sortie de Sciences Po, mais j'ai pris une voie qui a bifurqué. Mais si vous voulez, il est peut-être pas normal, et peut-être pas très sain, peut-être pas très raisonnable que toute la classe politique française, ou que tous les ministres, ou que tous les gouvernants sortent de l'ENA. Je pense qu'il y a bien d'autres formations qui permettent de gouverner la cité.
Comment on fait pour être à la fois dedans et en dehors? Parce que vous le dites, hein, Cécile Guibert, cette élite républicaine, vous l'incarnez quelque part, tout comme votre narratrice formée à Sciences Po, Paris, dans la même promotion que David Pujadas, Jean-François Copé, Frigide Barjot, Frédéric Becbédé, pour ne citer que quelques-uns des noms. Comment on fait pour arriver à prendre cette distance, pour la critiquer en réalité?
Moi, je ne critique pas les individus, hein, je critique les marionnettes médiatiques. Il y a un petit peu de satire au début de mon livre, parce que la narratrice se retrouve effectivement à une émission de télévision avec les anciens de sa promo, dont ceux que vous avez cités. C'est juste un starter dans le réel pour aller après vers l'imaginaire. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu écrire, à vrai dire, depuis que je sais lire, j'ai envie d'écrire. Et je me disais, quand j'étais plus jeune, que ça allait être très difficile de vivre de sa plume, et qu'il fallait peut-être faire des études pour s'assurer un job. Et je me disais, l'ENA, c'est parfait, parce que je serais diplomate et je pourrais voyager et écrire. Bon, j'ai un peu raté mon coup, mais j'ai quand même réussi à voyager et écrire autrement. Et j'ai toujours voulu écrire.
Est-ce que c'est un livre anti-système, Les Républicains? Anti-establishment?
C'est un livre qui fait la critique de l'establishment et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'oligarchie, mais je ne veux surtout pas que le personnage qu'il incarne, à savoir ce banquier d'affaires passé par l'inspection des finances, soit une caricature. Je ne voulais pas que ça soit une caricature, je voulais que ça soit quelqu'un de beaucoup plus ambigu, qui a aussi des qualités. Il ne s'agit pas d'avoir d'un côté une femme pure et dure qui a consacré sa vie à la littérature et qui...
Oui, mais quand on referme ce livre quand même, on a l'impression que rien ne va, et rien ne va pour s'arranger. On n'est pas tout à fait dans le tous pourri, mais presque, on n'en est pas loin. Et je remarque que vous ne proposez aucune solution.
À un moment, ce banquier d'affaires tient un discours pour séduire cette femme, et il va sur un terrain qui est celui d'une révolution démocratique, d'une révolution citoyenne, entre guillemets. Alors évidemment, il le fait avec cynisme, parce que c'est un cynique, mais enfin, les arguments qu'il déploie, je pense que vraiment les gens aspirent à être gouvernés autrement, à dire leurs mots autrement. Je pense que les institutions ont une forme de blocage, ou même elles ont été dévoyées, même si elles étaient très bonnes, ces institutions de la 5e, elles ont été dévoyées par peut-être le quinquennat, l'absence de leadership, de vision.
C'est ce à quoi vous aspirez en tant qu'intellectuel, une révolution démocratique, Cécile Guilbert?
Je pense que ça serait effectivement nécessaire. Ceci étant, en fait, en réfléchissant, je croyais avoir écrit un livre très politique, et puis finalement, maintenant que je l'ai publié, je m'aperçois que c'est plutôt un livre, en fait, sur le désir, je oui. crois, beaucoup plus qu'un livre politique. Bien sûr que la politique, il peut y avoir le désir de la politique et du pouvoir, mais mon héros masculin est en fait un homme qui a désiré le pouvoir davantage que faire de la politique. C'est un homme de cabinet, c'est une éminence grise, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se faire élire, au contraire. Il voudrait surtout pas aller serrer des mains sur les marchés ou... Non, mais c'est un livre sur le désir, parce que qu'est-ce qui reste justement si tout s'effondre et se décompose? Il reste le désir de l'art, de la beauté, le désir de l'amour.
C'est tout entière dans le désir et dans l'amour dans cette émission. Sans doute la connaissez-vous, Cécile, c'est la culture et son actualité débonnaire, déterminée, déterminante. Que se passe-t-il donc, tiens, aujourd'hui mardi 6 février? go, go, go pour Gaga. Hier, peu de temps après sa prestation acrobatique et engagée pendant la mi-temps du Super Bowl, Lady Gaga a annoncé sur Twitter qu'elle repartait en tournée tout autour du monde. Premier tour solo de la diva pop depuis 2014, le Joanne World Tour débutera le 1er août prochain à Vancouver au Canada et comptera près de 48 dates. Pour l'instant, un seul concert est prévu en France, le 6 octobre à l'Accor Hotel Arena de Paris. La précédente tournée de la chanteuse avait été surnommée Art Flop, faute de succès. Espérons que ça se passe mieux cette fois-ci.
Vous espériez trouver le bonheur dans les vies ?
Sur France Inter.
Le prix du livre Inter, c'est bien. Le prix du livre Badinter, c'est mieux. La femme de lettres engagée, Elisabeth Badinter, a donc été choisie pour présider le nouveau jury de la 43e édition du livre Inter, comme vous l'avez appris. Dans le 7-9, maintenant qu'on a une présidente, il nous faut un jury. Alors si vous avez la passion de la lecture et l'envie de rejoindre l'aventure, envoyez-nous votre candidature de solution sur le site de la station ou par courrier à l'adresse Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris Cedex 16, le tout avant le 13 mars. Et ça repart. Ainsi fait, la ministre Azoulay. En visite hier à Charleville-Mézières, capitale des marionnettistes, Audrey Azoulay a annoncé la création d'un label national pour les arts de la marionnette. Cette discipline artistique millénaire consacrée registre d'excellence pour la France disposera dès cette année d'un nouveau diplôme national supérieur professionnel de comédien. La ministre de la Culture a également présenté un plan de soutien au secteur, augmenté de plus de 800 000 euros pour aider la création, la formation et l'organisation du festival. On pousse le blues bien fort aux nuits de l'Alligator. Aujourd'hui, la 12e édition de ce festival de musique itinérant branche sa sono dans pas moins de 15 villes hexagonales, de Vannes à Rouen, en passant par Amiens, Paris ou Clermont. L'Alligator célèbre les rythmes du Bayou et le blues du Mississippi. On attend notamment le folk hardcore de Boss Hog à Louvain, les riffs planants de Luke Winslow King à Mérignac ou les rythmes endiablés de William Z. Villain à Nancy. Oh yeah! Cécile Gilbert, invitée de Boomerang ce matin, une remarque peut-être sur cette actualité culturelle du jour. Est-ce que vous êtes plutôt Lady Gaga, prix du livre Inter, sans doute d'ailleurs, marionnette ou alors blues?
Prix du livre Inter, c'est très intéressant de voir tous ces gens qui veulent participer à ce jury, qui envoient des lettres par milliers. Je pense qu'il y a une vraie, il y a un vrai amour de, voilà, de la lecture.
Vous faites partie d'un jury, vous aussi, le jury SAD, non? Non, vous l'avez gagné,
il
je
existe.
Ne sais plus. Ouais. Un prix SAD, non?
Oui, il existe un prix SAD. Ouais. Non, je ne l'ai jamais gagné car je n'ai pas écrit des choses assez sulfureuses.
Ouais. Ouais, je vous associais au prix SAD, c'est pour ça que j'ai commencé sur SAD, cette émission. Cécile Gilbert, votre nouveau livre s'appelle Les Républicains, on l'a compris, et se pose en roman sur la page de couverture. Hors des romans, vous en avez écrit peu. Le Musée National il y a 17 ans et Réanimation il y a 5 ans. Le reste de votre travail se constitue surtout d'essais, de chroniques, de critiques. Et on se pose, quand on vous lit, la question de la forme. Vous vous la posez, vous?
Constamment. Alors, c'est quand j'étais jeune, si vous voulez, je pensais comme que les écrivains pouvaient écrire dans tous les genres et qu'après tout, être écrivain, c'est manier la langue française. Manier la langue française dans un genre suppose un art et cet art informe tous les genres, le roman, l'essai, la poésie, le poème en prose. Et donc, en fait, il s'agit toujours de donner une forme. Et je me suis beaucoup intéressée à l'essai parce qu'en fait, j'ai écrit des livres quand j'ai une idée et que j'ai envie de creuser un sujet, quand ça me passe par la tête et que j'ai vraiment envie d'écrire un livre. Parce que pour écrire un livre, il faut vraiment être excité par son sujet. Ça demande du temps, ça demande du travail. Donc, autant être excité par son sujet. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années à écrire des essais en cherchant à chaque fois une forme et en essayant de trouver des formes qui convenaient au sujet que je traitais. Je me suis beaucoup amusée avec ça. Là, j'ai eu envie d'écrire un roman. J'avais écrit il y a quelques années un récit.
Et vous dites, dans Les Républicains, c'est assez intéressant, le roman, c'est une forme sacro-sainte en France. Comment vous l'expliquez, ça?
Mais oui, en France, c'est à la différence des pays anglo-saxons où vous avez ce genre de la non-fiction qui est un genre à part entière littéraire. En France, le roman a pris le pas sur tout autre genre, à tel point qu'on qualifie de roman des textes qui sont parfois des récits. Je pense que c'est lié à des raisons de marché.
Mais puis, il y a quand même, vous le dites, hein, cette obsession pour tout ce qui touche de près ou de loin à la littérature en France et à l'écriture. Vous dites que l'écriture, c'est une maladie nationale.
Oui, je m'en moque de l'écriture. Et dans ce cas, des hommes politiques qui veulent tous écrire, ah oui. On voit bien que c'est la porte à un certain statut, un certain standing symbolique. Et c'est vrai qu'écrire ouvre des portes à Paris notamment. les portes de la bourgeoisie, les portes d'un certain monde. Il y a encore cette valeur sacro-sainte, mais qui parfois est une forme vide. Et en fait, quand je dis qu'il faut réserver le terme d'écrivain à ceux qui manient la langue, c'est que la langue est un instrument de musique, et au même titre qu'un musicien pourrait avoir envie d'explorer la forme de la symphonie ou du quatuor, tous les genres littéraires en fait sont comme des genres musicaux dans lesquels on décline un instrument.
Mais une maladie aussi, si l'écriture est une maladie, comment est-ce qu'elle s'attrape, Cécile Guilbert ?
En ce qui me concerne, elle s'attrape en lisant, car je ne crois pas qu'on puisse écrire si on n'a pas aimé passionnément ce qu'on a lu et si on n'a pas voulu aussi. C'est un style de vie aussi. Je pense que très jeune, j'ai eu envie de ce style de vie qui consiste à être seul pendant des heures.
Ça sont les symptômes de la maladie,
hein. Oui.
La solitude, oui. Et les facteurs aggravants. Quels sont-ils ?
Les facteurs aggravants. Je pense qu'aussi c'est une activité merveilleuse aujourd'hui, dans ce brouhaha continu, cette hystérie générale, cette subjectivité qui s'épanche partout, on a envie de se mettre aux abris un peu.
Et les risques de cette maladie de l'écriture, parce que si c'est une maladie nationale, il faut quand même que les gens sachent, il faut que Marisol Touraine, notre ministre, prenne des dispositions sanitaires. Qu'est-ce qu'on risque à faire de la littérature ?
D'abord, c'est pas une activité de tout confort financièrement, ça c'est la chose qui vient à l'esprit. C'est un risque personnel parce qu'on risque de voilà de passer des années à être content ou pas de ce qu'on a écrit. Bon, personnellement, je pense que la vie est un risque et ce risque-là est le plus beau puisqu'en fait comment dire, dès qu'on a fini un livre, on a envie d'en refaire un autre. Donc en fait, on pense toujours qu'on va faire mieux et on a une sorte de piqûre négative qui vous saisit et vous repartez toujours dans une quête et toujours dans ce désir. Donc, et je pense aussi qu'on peut écrire un livre en se disant qu'on va sauver son âme avec un livre. Il suffit d'un livre en fait. Et peut-être on est à la recherche de ce livre unique.
Vous parlez de vous là ?
Oui.
Moi, je connais un remède, Cécile. Je ne sais pas si c'est un remède, mais je sais qu'il fait du bien le matin. Ça s'appelle Résident de la République. C'est signé Alain Bachung. On l'administre avec délice depuis 2008. Vous êtes sur France Inter avec Cécile Guilbert. Vous écoutez Boomerang.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Moi, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas. Parlerai-moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus.
président, résident de la République. Chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Imaginez un mélange entre Caroline de Monaco, Morticia Adams et je ne sais quelle égérie d'Andy Warhol, ténébreuse, à souhait l'intensité, les yeux revolvers, le flegme légèrement suspect dont on ne sait s'il est naturel ou psychotrope d'ailleurs. Et cette moue existentielle, hein, à la Gréco, décidément c'est la semaine, des moues intello, lèvres rouges, tout en noir, dame en noir, bottes en cuir avec nœuds de velours, Cécile Gilbert, invitée de Boomerang ce matin pour ce roman, Les Républicains, discussion à bâton rompu entre deux anciens camarades que tout sépare. On le disait, un homme politique et un écrivain qu'on aurait du mal à ne pas reconnaître comme votre alter ego. Un alter ego que vous surnommez la fille en noir d'ailleurs. Madame Bovary, c'est moi.
Bien sûr, comme elle était Flaubert, mais aussi Guillaume Fronsac, c'est moi aussi.
Ah, vous êtes tout le monde en fait, vous.
Oui.
Vous êtes surtout la dame en noir quand même, non? Et je me pose la question, quel personnage est-ce que vous êtes? Parce qu'on se la pose forcément quand on s'écrit, Cécile Gilbert.
Je ne pense pas être un personnage, mais bon, le noir, je l'ai adopté très jeune. J'ai écrit beaucoup sur le noir. En fait, c'était un signe de révolte. Bon, la révolte des anarchistes, etc. Mais en fait, quand j'étais pensionnaire dans un couvent de jeunes filles, on n'avait pas le droit de s'habiller en noir. Il fallait s'habiller en bleu marine ou en gris. Et je disais, puisque vous aimez les couleurs neutres et les couleurs discrètes, allons-y pour le noir. J'ai eu beaucoup d'ennuis, mais j'ai adopté le noir à cette époque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce personnage, pour le coup de la fille en noir, vous vous livrez avec une certaine malice, à une sorte d'autocritique aussi. Écrire, est-ce que c'est une forme d'exercice de lucidité pour vous?
Oui, je pense qu'à un moment, et surtout quand on vieillit, je pense qu'on se connaît, qu'écrire, ça consiste aussi à se balancer, on peut s'auto-portraiturer, on peut s'auto-critiquer, on peut avoir de l'humour sur soi, et il faut se cerner, il ne faut pas se mettre dans une posture comme ça de surplomb.
Quitte à se troubler.
Bien sûr, mais c'est le jeu, c'est pour ça que finalement... J'adore écrire ce roman, parce que quand on est romancier, j'enfonce une porte ouverte, on a un petit démurge, on s'amuse avec le réel, on fait des portraits cryptés, on se sert de ce qu'on connaît.
On est un peu maso.
Pardon ?
On est un peu maso, non ?
Maso, pas du tout. Non, on est ludique, et on est démurgique, et on est tout puissant.
C'est un exercice de style, aussi, pour vous, l'écriture ? Avant tout.
Bah, pas un exercice de style au sens où je me mettrais devant ma feuille en me disant je vais faire un exercice de style.
De style de vie.
Mais le style est le reflet de ce que l'on est dans ce que l'on fait, comme disait René Dommal. Donc forcément transpire dans les styles différents des écrivains, des tempéraments, des systèmes nerveux. Moi, j'aime le 18e siècle, vous le savez, c'est pour ça que c'est une conversation, un roman à suspense, mais aussi une conversation comme ça, à bâton rompu. C'est rare la conversation aujourd'hui. Hein? On n'a plus le temps de converser là, mais mes deux personnages dérivent pendant des heures. Il faut une sorte de dérive debordienne d'ailleurs dans les quartiers chics. C'est quand même une dérive psychogéographique.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de converser tous les deux.
Voilà, nous conversons.
Ça existe encore un
c'est
petit peu.
C'est très agréable.
Ouais. On va le faire entendre quand même, ce style. J'ai envie de vous faire lire un extrait de vos Républicains, très court. C'est moi qui l'ai choisi. C'est un paragraphe en fait. Vous voulez bien?
Avec plaisir. Si je fais le bilan aujourd'hui, il est évident que j'ai consacré beaucoup plus d'énergie et d'heures à l'amour, au sens le plus large et quasi cosmique du terme, qu'à écrire des livres. Comme tu le sais peut-être, on ne s'ennuie dans la vie que lorsqu'on aime médiocrement. C'était valable au siècle des Lumières et plus encore aujourd'hui. La littérature a façonné mon existence depuis que je sais lire. Je n'ai pas eu ou voulu d'autre vocation et aucune passion qui l'égale. Mais je me demande si le mot « vice » ne conviendrait pas mieux, vu que lectures et flâneries, voyages et paresses l'ont emporté quantitativement, sur l'écriture, sans compter tout le temps que j'ai passé à ramer pour gagner 3 copecs.
Vous êtes en train de nous dire, Cécile Gilbert, qu'en devenant écrivain, vous avez fait vœu de pauvreté.
J'ai fait surtout vœu de liberté. Pauvreté, peut-être pas ad vitam aeternam. On peut peut-être parfois gagner de l'argent avec des livres. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas être dans ce misérabilisme romantico-19e-iste.
Parce qu'on entend un peu, là.
Oui, la fille en noir fait un bilan. Bon, c'est vrai qu'elle a passé plus de temps à aimer, à vivre. Si vous voulez, je ne suis pas de ces écrivains qui veulent revenir tous les 2 ans avec un roman comme un métronome. J'ai envie de vivre aussi par ailleurs. J'écris quand j'ai vraiment une idée qui me tient à cœur et qui m'excite suffisamment pour que j'y consacre 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais si vous voulez, on n'est pas des machines, hein. Même si j'ai écrit sur Andy Warhol, moi je suis loin de ce...
Et pour autant, il est écrit que ça façonne l'existence. En quoi est-ce qu'elle a façonné votre existence à vous, la littérature ?
Mais la littérature, elle m'a appris à penser, elle m'a appris à aimer. Je pense que la littérature vous donne des expériences, vous donne une connaissance, des émotions. J'aime par-dessus tout le français. J'ai consacré mon premier livre à Saint-Simon, qui pour moi est le sommet baroque, sublime du français. On n'a jamais fait mieux. À chaque fois que j'y repique en fait comme une droguée. Je dis toujours ça. Je reste pendant des mois sans le lire. Et puis dès que je prends un volume dans ma bibliothèque, je recommence à le lire. J'ai l'impression d'être comme une héroïne humaine qui a retrouvé sa dose. Enfin, c'est magnifique, c'est exaltant. C'est l'art, quoi. C'est la beauté des choses qui nous survivent et que, dans lesquelles on peut se plonger. C'est un luxe aussi. La vie d'écrivain, c'est un luxe. On a tout son temps. C'est une insécurité, mais finalement, c'est une grâce.
Et c'est peut-être la grâce, justement, de savoir qu'il n'existe rien dans notre existence qui ne soit pas fictionnel. Je me trompe ?
Oui, tout est fictionnel. Toutes les situations qu'on vit, c'est pour ça que finalement, pour revenir peut-être un peu à la politique, j'admire beaucoup et je m'intéresse beaucoup aux écrivains qui font de la politique fiction. Mais je trouve que la politique française est déjà tellement romanesque, elle l'est depuis toujours, et elle l'est aussi parce qu'on a cette vieille classe politique qu'on connaît par cœur et qui revient comme ça dans notre théâtre quotidien, comme des personnages d'une vieille pièce ou d'une vieille famille qu'on connaît depuis toujours. Alors maintenant, peut-être qu'on en a un peu assez et qui tombent après, ils sortent du champ, ils sortent un peu comme des personnages du champ, mais je crois que tout est romanesque, et ce roman joue beaucoup avec le romanesque et ne se cache pas de l'être. J'ai choisi de terminer l'émission sur ce morceau de Purcell qui s'appelle la Cold Song, du génie qui du froid qui va devenir de la glace. C'est une chanson reprise par Klaus Nomi, parce que pour parler de quelque chose d'un peu intime, quand j'étais adolescente, ma voix a mué, ça m'a beaucoup troublée. Et pendant longtemps, j'ai eu un problème avec cette voix qui était masculine et qui était, alors que j'avais un corps de femme, et cette ambiguïté m'a bouleversée. Quand j'ai découvert les contre-ténors baroques et ces voix qui sont des voix de fossé, qui sont des voix de tête, et qui n'ont pas l'équivalent finalement chez des chanteuses femmes, puisqu'en fait il y a des sopranos, mais ces hautes contres sont des sortes de sopranos masculins. Ça m'a beaucoup troublée. J'ai voulu prendre ce morceau parce que il est bouleversant. Il y a une sorte de halètement, de souffrance, de douleur, parce que ce génie va se devenir de la glace, et en même temps, il y a une sorte d'extase. Et puis il illustre l'hiver, évidemment, l'hiver de Richard III, l'hiver de Westeros, puisqu'il y a une citation de Game of Thrones au début de mon livre, cette série machiavélienne. Et cet hiver, c'est celui dans lequel est baigné un peu notre pays. Il serait temps que le printemps revienne.
Merci beaucoup, Cécile Guilbert, d'être venue faire un tour. Merci. Dans Boomerang. Je rappelle que Les Républicains, votre nouveau livre, est publié chez Grasset Cruel, est à des lieux de notre République, avec en prime jeu de séduction, suspense à la clé. Merci infiniment. Tout de suite, les médias. Bruno...